Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Cette semaine, je reçois Inde Bénis, créatrice de la marque de chaussons pour enfants Hub. C'est à la naissance de son premier enfant qu'Inde a eu envie de concevoir des chaussons souples en cuir au tannage végétal. Dans cet épisode, Hint nous raconte comment est née cette aventure. Elle nous explique les relations qu'elle a tissées avec les artisanes marocaines et l'importance de privilégier ses savoir-faire. Nous parlons également d'appropriation culturelle, Nous parlons également d'appropriation culturelle et des enjeux que cela représente. Un épisode riche qui, je l'espère, vous plaira. Compte tenu des circonstances actuelles, nous avons été contraintes d'enregistrer cet épisode à distance. Bonne écoute à toutes et à tous.
Bonjour Inde.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, je te remercie. Et toi?
Ça va très bien aussi. Je suis vraiment ravie de te recevoir au micro de Basilic. On échange depuis un moment maintenant. Malheureusement, on ne pourra pas se rencontrer en vrai, mais on va le faire à distance. C'est pas grave. L'important, c'est de parler de ton projet, de ce projet que tu mènes avec brio depuis plusieurs années, qui s'appelle donc Hub. On va détailler tout ça, mais d'abord, peut-être dans un premier temps, tu pourrais commencer par te présenter pour les auditeurs et les auditrices.
Merci déjà, Jeanne, de me donner l'opportunité de m'exprimer à ton micro. Je suis ravie. Alors, moi, je m'appelle Hind, je suis mariée, j'ai deux enfants, dont un tout petit. Donc, moi, je suis à la tête d'une société de fabrication de maroquinerie, déjà dans une première vie depuis une dizaine d'années. Et j'ai créé la marque un petit peu après la naissance de mon aîné, donc il y a maintenant 4 ans. Et il y a Samia, mon associée, qui m'a rejoint il y a quelques temps pour continuer le développement de Hub, notamment à l'étranger et précisément en France, puis en Europe bien sûr. Voilà, passionnée par la mer, on en a parlé, passionnée aussi par les animaux. Et voilà, aussi par l'écologie, ça en découle un petit peu.
Voilà. On va y venir justement, puisqu'il y a une question que je pose à tous mes invités, ou presque, c'est de connaître leur premier geste écolo, donc soit quand ils étaient enfants, soit adolescents, soit jeunes adultes. Voilà, le premier geste écolo dont tu te souviennes.
Alors nous, on a toujours, pour moi c'est écologique, on a toujours donné nos vêtements. Donc nous, nos parents, depuis tout petit, nous demandaient de trier nos vêtements et jouets toutes les saisons pour les donner à des enfants qui avaient moins de jouets, de vêtements et qui étaient dans le besoin. Donc nous, on a toujours fait ça avec nos parents depuis tout petit.
Tu avais déjà initié cette démarche de la réutilisation, du recyclage, du don, qui est finalement un geste écolo très important et qu'on a eu tendance à oublier.
Ouais, et au Maroc aussi, je pense que ça doit se faire en France aussi, on a tendance à beaucoup donner les vêtements entre cousins, entre amis, donc les vêtements qui sont peu utilisés, qui sont encore beaux, on les donne à quelqu'un qui attend un bébé pour qu'elle les utilise. Donc ça se fait beaucoup. Et là, dernièrement, moi, j'ai récupéré des vêtements de moi toute petite qui avaient fait un peu le tour de la famille. Donc c'est rigolo.
Et donc, comment est née l'idée de créer Hub finalement? Comment est-ce que ça t'est venu? Tu disais que tu travaillais dans le secteur textile avant.
Alors moi, je suis fabricante de maroquinerie pour des marques européennes depuis une dizaine d'années. C'était le métier de mon papa, donc on a baigné dedans depuis tout petit. Moi, j'ai toujours fait attention à ce que je mettais à mon fils comme vêtements. Donc je cherchais déjà à l'époque des vêtements écotex et des choses comme ça pour éviter les allergies. Voilà, on se dit la peau d'un bébé, c'est quand même super sensible et fragile. Et quand j'ai voulu le chausser, je suis allée dans le magasin où j'allais habituellement, et j'ai trouvé que des chaussures déjà qui étaient rigides, alors que mon bébé était petit, ça me paraissait un peu bizarre. Je trouvais que ça correspondait pas à son âge. Les pieds sont encore tout mous, etc. Et ça me faisait bizarre de mettre ça. Il marchait pas encore. Et surtout, j'ai remarqué qu'ils étaient fabriqués dans des pays type Bangladesh, que voilà, pour moi en tout cas, ne sont pas forcément reflets de sécurité et de matériaux en tout cas sélectionnés avec transparence. Et j'avais du coup demandé à mes fournisseurs de cuir, puisque je travaillais avec des fournisseurs de cuir, de m'envoyer des petits morceaux de cuir à tannage végétal. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais voir, je vais lui coudre des petits chaussons pour voir ce que ça donne. Et je vais lui mettre, parce qu'au moins je sais d'où ça vient. Et ça sera des cuirs, parce qu'à l'époque, il mettait beaucoup de choses dans la bouche, etc. Et j'étais super inquiète de me dire, voilà, il met des choses qui sont toxiques dans sa bouche. Donc c'est du coup ça a commencé comme ça. Les premiers morceaux de cuir me sont arrivés. On a commencé à coudre les premiers chaussons. Donc j'avais regardé à l'époque des petits tutos, des choses comme ça. Donc on a cousu les petits chaussons. Et de fil en aiguille, en fait, toutes mes amies étaient plus ou moins dans la même période que moi, avec des petits nourrissons ou des enfants un peu petits. Elles ont commencé à me dire, ouais, mais non, on n'en trouve pas. Tu peux nous en faire. Donc j'en ai fait un, deux pour des amis comme ça, à droite à gauche. Et je me suis dit, mais enfin, voilà pourquoi ne pas me lancer un petit peu dans l'aventure de marque, parce que là j'avais la casquette plutôt sous-traitante de marque, donc j'avais l'habitude quand même de suivre comment évoluer une marque. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer dans cette aventure de créer ma marque avec ces petits chaussons, puisque je voyais qu'il y avait un vrai engouement, une vraie demande. Qu'on me disait que voilà, c'était super bien fini, super confortable. Donc, ça a commencé, les premières créations sont nées comme ça. Donc, j'ai créé la marque. Après, la marque n'était pas aussi développée qu'actuellement, puisque moi, j'avais mon métier à côté et du coup, j'avais un peu moins de temps pour m'occuper de Hobbes. Mais voilà, j'ai toujours, en tout cas, l'objectif initial de la marque, c'était faire des choses confortables. Du souple, puisque c'était un peu ma recherche initiale, et surtout de faire ça avec des matériaux qui soient propres, clean, pas de risque d'allergie, pas toxiques, pas chimiques, etc. Donc l'objectif initial, c'était vraiment de trouver une alternative que j'avais pas encore réussi à trouver en tant que cliente.
Tu as mentionné le cuir végétal, enfin au tannage végétal. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, la majorité des cuirs sont traités chimiquement de toutes les manières, parce qu'il y a des produits pour les nettoyer, etc. Sauf qu'il y a certains produits qui peuvent être plus allergisants que d'autres. Et donc, le cuir à tannage végétal, les coloris sont faits à partir de pigments naturels. Et il y a l'absence aussi de beaucoup de produits chimiques qui peuvent faire des réactions chimiques, enfin des réactions, pardon, allergisantes au niveau de la peau. Donc ça, c'est comme, on va dire, un peu le bio pour l'alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a toute une liste de produits qui sont interdits d'utiliser dans ces peaux pour éviter tout risque de toxicité ou d'allergie.
Et toi, tu travaillais déjà pour l'entreprise que tu as reprise de ton papa avec des fournisseurs qui travaillaient ce type de cuir?
Oui, alors on l'utilisait pas beaucoup en tant que pour nos clients, mais enfin, déjà au Maroc, c'est des choses, après c'est traité de manière un petit peu différente, mais ça a toujours été quelque chose qu'on a connu parce que c'est des choses qui sont faites de manière à la main et naturellement. Donc c'est déjà connu au Maroc, le tannage végétal. Et effectivement, c'est des fournisseurs qui étaient susceptibles de nous en fournir, puisque surtout là, depuis quelques années, c'est un cuir qui est en train de redevenir, on va dire, à la mode, même si c'est une bonne chose, parce que les gens prennent conscience que voilà, tous les cuirs ne sont pas traités de la même manière et que certains sont plus favorables, en tout cas, à être traités de manière naturelle.
Au Maroc, il y a une très grande partie de l'artisanat qui est consacrée au cuir et au tannage, si je ne me trompe pas, notamment dans la région de Fès,
De
il me
Fès,
semble.
ouais, exactement.
Comment est-ce qu'il a évolué ce secteur au fil des années avec voilà, le développement aussi de la fast fashion, l'exportation des travailleurs et travailleuses du textile à l'autre bout du monde? Comment est-ce que ça a évolué au Maroc?
Alors, le milieu de l'artisanat pur a pas beaucoup changé, je dirais que voilà, quand on va dans les médinas, ça reste assez similaire. Il y a toujours les tanneries un peu anciennes, voilà, qui travaillent de manière manuelle. Après, en parallèle, il s'est développé quand même une petite moyenne industrie. Pour moi, le relais un peu de cet artisanat, c'est devenu des marques un peu comme nous. Donc, il y a beaucoup de jeunes marques de créateurs qui sont nées ces dernières années et qui justement travaillent en collaboration étroite avec des artisans. des ma'allem aussi, c'est des gens qui ont de l'expérience, on va dire une expertise artisanale, et qui vont valoriser du coup cet artisanat dans des produits plus modernes. Voilà.
D'accord.
Plutôt des marques qui vont vers les artisans pour leur demander de travailler des choses et eux les réexploiter dans des créations modernes. Donc ça va être dans le bijou, ça va être dans la chaussure, dans plein de choses, on le voit, les sacs aussi.
Il y a vraiment un essor aussi de ces trentenaires, quarantenaires marocains qui ont envie de remettre au goût du jour l'artisanat.
Oui, notamment il y a une marque, je ne sais pas, de gelige qui est assez connue, qui s'appelle Eight Manos, qui a fait ça aussi, qui a complètement révolutionné le gelige marocain, qu'il a retravaillé d'une façon très moderne et qui maintenant qu'il exporte dans le monde entier. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là.
Les éliges, ce sont les petites mosaïques.
Exactement, très, très qu'on jolie. Voit sur les fontaines ou dans, parfois dans les piscines ou sur les murs.
Et donc, si on revient à ton projet et donc la création de ces chaussons, donc tu as tes copines qui te disent « Oh, Hind, moi j'adore tes chaussons, est-ce que tu peux m'en faire pour mes enfants ?» L'idée de créer ta marque fait petit à petit son chemin, mais j'imagine qu'il a fallu te rapprocher de couturières ou de couturiers, qu'il a fallu créer tout un écosystème autour de ces chaussons.
Alors, l'avantage que j'avais, c'est que moi, en tant que fabricante, j'ai des artisans qui m'entourent, qui sont des artisans, qui certains qui travaillent déjà avec mon père, donc qui ont une expertise de plus de 20 ou 30 ans de métier. Et du coup, en fait, j'avais ces gens-là qui n'avaient jamais fabriqué ce type d'article-là, mais qui, en tout cas, avaient une expertise cuir et une expertise couture. Donc du coup, on a vraiment travaillé en collaboration, c'est-à-dire qu'on a appris ensemble à faire des chaussons et des chaussons dans la manière dont on voulait les voir en termes de finition ou en termes de matériaux. Donc j'avais mon équipe en fait qui m'a aidé à monter ces premiers protos et bien sûr, ça a été premier proto comme je te l'ai dit, qui était un proto pas très joli. Et après, au fur et à mesure du temps, en fait, on l'a amélioré. Et moi, comme je le faisais porter à mon fils, à chaque fois, je leur disais, voilà, il y a ça qui ne va pas. L'élastique, par exemple, ne convient pas. Derrière, c'est trop court. Là, c'est trop long. Là, ça serre. Donc, on a vraiment travaillé main dans la main pour obtenir le bon produit. Et aujourd'hui, on est encore en train d'améliorer le produit. Je veux dire, c'est un travail quotidien de faire progresser le produit.
Et en plus de cette dimension artisanale donc de ces chaussons, tu as voulu aussi avoir un impact écologique minimal puisque tu essaies au maximum d'upcycler la matière première et donc de la recycler. Par exemple, moi, les chaussons que j'ai pour mon fils sont cousus avec du jean recyclé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur cette dimension écologique ?
Alors justement, nous, on s'était déjà rapprochés de coopératives, notamment, qui font du tissage à la main. Et en fait, comme moi, j'étais déjà moi dans l'industrie, qu'on a beaucoup effectivement de chutes de matériaux qui ne sont pas forcément réutilisables en fait dans les articles qu'on fabrique, on a commencé à récupérer des chutes, donc, notamment auprès d'usines textiles et de jeans, qui nous donnent vraiment leur chute, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment destinées à être jetées, ces morceaux-là, ce n'est pas des choses qui vont être réutilisées. Et donc, nous, on les récupère, on les donne à des coopératives de femmes qui vont les tisser de manière artisanale et traditionnelle et qui vont faire, comme tes chaussons, du tissage qui est souvent utilisé sur des tapis. Que nous, on a revalorisé pour les insérer sur nos chaussons. Donc, du coup, effectivement, nous, notre volonté, elle était de revaloriser tous ces morceaux qui sont considérés comme des choses à jeter. Pour nous, on l'a valorisé, on les a fait travailler, et du coup, c'est presque un petit objet d'art. Enfin, je veux dire, c'est déjà de la pièce unique parce qu'on ne réutilise jamais les mêmes morceaux. Et du coup, c'est jamais les mêmes couleurs parce que c'est en fonction de ce qu'on trouve. Donc c'est travaillé par des femmes qui ont aussi une expertise traditionnelle qui est transmise de génération en génération et de femme en femme souvent.
C'est une méthode de tissage qui s'appelle bouchaourit, c'est ça, hein, c'est ce que tu dis sur ton site.
Oui, bouchaourit, exactement.
C'est une méthode qui était toujours assez en vogue ou qui avait tendance à disparaître compte tenu parce que On y viendra peut-être après, mais il y a un gros problème quand même d'appropriation culturelle
oui.
sur ces questions. Et on peut acheter maintenant sur La Redoute et autres des tapis dits berbères, mais qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde et pas du tout au Maroc par des artisans ou des artisanes.
Le beau charouet est quand même utilisé. C'est quand même des choses, des créations qu'on arrive à voir. Voilà, sur notamment dans les régions de Marrakech, on en voit beaucoup. Mais après, c'est bon, c'est pas forcément fait exactement de la même manière que ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire que c'est souvent fait avec des matériaux particuliers qu'ils récupèrent eux. Nous, la manière dont on l'a fait fin comme ça, avec du jean, etc., c'est vrai que c'était assez nouveau. Mais non, c'est pas forcément une technique qui est tombée dans la. Enfin, c'est une technique qui est encore utilisée actuellement. Je pense que toi, tu fais aussi. Tu parles un peu des baignoires et tout ça. Alors, ça existe aussi encore au Maroc, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'industries à l'étranger qui commencent à faire des copies mécaniques, en fait. Et du coup, qui sont beaucoup moins chères. Qui ne sont pas forcément dans les bonnes fibres et qui du coup font beaucoup d'ombre à ces artisans. Ça prend, enfin, comme tu l'imagines, tout est fait à la main. Donc nous, par exemple, les tissages, ça nous coûte extrêmement cher parce que voilà, c'est fait à la main. Elle doit retravailler le morceau de chute qu'on lui a donné de la bonne taille et c'est noué à la main. Enfin voilà, c'est un travail extrêmement minutieux. Et du coup, l'artisanat n'est plus valorisé réellement, dans le sens où les gens cherchent plutôt à acheter du produit pas cher que du produit fait main. On va dire qu'il y a c'est là où il y a un décalage. Et malheureusement, il y a quand même des techniques artisanales qui sont en train de disparaître. Il y en a de moins en moins qui sont capables de les faire. Les ma'allem qui les faisaient sont en train de vieillir et il n'y a pas forcément de transmission. Mais sur le beau charouette notamment, il y a encore quand même des gens qui le travaillent parce que ça reste quand même un objet qui est encore à la mode en ce moment avec le baignoirin. C'est des choses qu'on voit qui sont à la mode.
C'est aussi, je trouve, notre responsabilité en tant que consommateurs et consommatrices. Si on souhaite acheter, que ce soit un tapis, mais j'ai aussi vu, tu sais, les petits tabourets qu'on voit beaucoup
oui, exactement,
au Maroc.
Les tabourets, les bancs. Oui, ouais. Les chaises, effectivement.
Et pareil, je les ai vues vendues pour une dizaine d'euros. Évidemment, il faut bien avoir conscience que là, on ne valorise pas l'artisanat, qu'on valorise la production de masse et industrielle, et que finalement, il y a quand même eu toute cette appropriation par des marques d'un savoir-faire ancestral.
Clairement, ça c'est sûr que c'est notre responsabilité en tant que consommateur. De savoir d'où viennent nos produits et comment ils sont fabriqués. Aujourd'hui, je pense que surtout avec ce qui est en train de se passer, il faut quand même ouvrir les yeux sur ce qui est important, de valoriser le travail de gens et surtout de permettre, parce que ça, c'est la problématique essentielle, c'est de permettre cette transmission, que ça se transmette de génération en génération. De permettre que ces choses-là ne disparaissent pas dans un, moi je dirais sur du court terme, hein, parce qu'on parle vraiment de quelques années. Il faut vraiment prendre conscience que un tapis ou un objet, peu importe l'objet, a une certaine valeur et que si on le paye à un dixième du prix, c'est pas qu'il est fabriqué en tout cas de la bonne manière. Ça, c'est, moi, je pense que ça peut se prolonger sur tout. Hein. Ce n'est pas forcément que sur l'artisanat marocain. Mais voilà, quand on paye quelque chose à un prix dérisoire, c'est forcément fait dans des conditions qui ne sont pas les conditions initiales. C'est-à-dire que quand on achète un tapis qui vaut 5000 dirhams, 500 euros, et qu'on le paye à 100, c'est qu'il y a un souci. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aider ces gens-là parce qu'aujourd'hui, nous, avec le Covid, il y a quand même un gros souci de tourisme. Les touristes ne sont plus là. Donc, les Médinas sont en train d'être asphyxiés puisque ça reste quand même leur première clientèle. Il y a eu des initiatives un peu sur les réseaux sociaux. Notamment, il y a eu Shaibi Chic qui a mis en avant... le travail des artisans dans la médina de Marrakech. pour valoriser et pour aider ces gens-là qui vivent de ça. C'est-à-dire que demain, ils vont se tourner vers je vais faire des raccourcis, mais à vendre des téléphones pour survivre. Ils vont abandonner leur art parce que ça ne paye plus, ils peuvent plus en vivre. Donc c'est ça qui est un peu triste. Après, c'est clair que moi j'avais vu notamment ce dont tu parles sur la Redoute, les tapis voilà, j'en avais parlé avec ma famille justement qui est en Europe. Elle m'a dit ouais, moi pourquoi je vais acheter des tapis au Maroc alors que je trouve les mêmes mieux faits, parce que en termes de finition, c'est vrai que le bas blesse un petit peu au Maroc, moi je trouve, en termes de finition, malheureusement, qui sont mieux finis et qui vont mieux durer qu'un tapis artisanal acheté au Maroc. Donc ça reste quand même un état d'esprit, hein. C'est une globalité qu'il faut changer. Et c'est vrai qu'au niveau des finitions, souvent, nous on l'a remarqué aussi en travaillant avec les artisans, ils ont un super beau boulot, mais le dernier sprint final, c'est comme ça que je l'appelle, n'est pas fait correctement. C'est-à-dire qu'ils vont pas bien finir, ça va pas être joli, ça va pas être droit, ça va être un peu biscornu. Et du coup, ça donne aussi de la valeur au produit, dans le sens où on se dit voilà, c'est un truc fait main, mais ça mériterait quelques petites améliorations de finition pour vraiment, je trouve, avoir un beau travail, quoi.
Oui, donc c'est indispensable pour toi quand même d'être sur place, de pouvoir aller les voir, de travailler main dans la main avec eux, de pouvoir faire des allers-retours à l'atelier.
Alors, nous, on travaille effectivement avec donc des jeunes femmes qui, eux, s'occupent de la coopérative. Donc, c'est nos contacts, c'est ces jeunes femmes, ML notamment. Et effectivement, on a fait depuis le début beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec eux. Ah non, le fil est trop gros. Ah non, là, c'est trop effiloché. Ah non, ça va pas. Là, c'est trop épais. Là, c'est... Voilà, donc c'est clair qu'on on met du temps à bien finaliser nos produits, que ce soit bien fini, que ce soit propre et que voilà, ce soit pas un produit qui soit pas joli, parce qu'il faut que ça reste quand même joli esthétiquement, que ce soit un truc qui soit portable. Donc oui, on fait beaucoup d'allers-retours. Après, moi, surtout avec mes artisans, ceux qui sont en interne avec moi, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est vrai qu'au quotidien, on est avec eux, donc ça permet de dire ah non, là ça va pas, là, ça fait mal, là c'est anguleux, là c'est pas joli. Enfin voilà, on est tout le temps en tout cas sur l'amélioration des finitions, et on attend aussi beaucoup nos clients ont beaucoup de retours positifs pour la plupart, mais c'est vrai que parfois on a des retours qui nous poussent à nous améliorer, donc de dire voilà, je trouve que le coup de pied est un peu serré par exemple, ce genre de commentaires. Et donc du coup, voilà, on prend nous toutes les voies pour en tout cas améliorer nos produits, que ce soit en termes de finition ou en termes d'esthétique. Notre bonheur, c'est de voilà d'avoir des retours de gens qui nous disent bah votre chausson, il convient, il mettait pas de chaussures, il l'a adopté tout de suite. Enfin voilà, on a ce genre de retour, et ça c'est ce qui nous motive et ce qui nous fait avancer.
Tu le disais un petit peu plus tôt dans l'épisode, mais maintenant tu travailles avec ton associé.
Oui, Samia qui m'a rejoint là depuis un peu plus d'un an et qui est aussi issue du domaine de l'enfance. Et alors Samia m'a rejoint pour m'épauler, parce que c'est beaucoup de travail, surtout pour développer notre marque un petit peu à l'étranger, parce qu'aujourd'hui au Maroc on a quand même une bonne communauté, de bons clients. Et on souhaite diffuser notre produit un peu plus à l'étranger.
Pourquoi est-ce que tu avais cette volonté, toi aussi, d'exporter ces chaussons à travers le monde ? Pourquoi est-ce que tu t'es pas finalement cantonné au Maroc ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Parce que j'imagine que ça demande encore plus de travail.
Ça demande plus de travail, effectivement. Alors nous, déjà, notre objectif, c'était de montrer que le produit marocain, parce que c'est souvent synonyme justement de mauvaise qualité, mais de qualité moyenne, de finition moyenne. On voulait aussi montrer que le produit marocain, et notamment il y a beaucoup de produits européens qui sont fabriqués au Maroc, sont dignes de marques européennes. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer des produits dans de bonnes conditions, de manière éco-responsable, parce que nous, il faut savoir qu'on est en circuit court, donc on est vraiment sur un tout petit environnement écosystème, c'est-à-dire que tout est autour de nous. Donc, on arrive à faire des produits marocains beaux et bien finis. Ça, c'était déjà, moi, en tant que Marocaine, je suis fière de pouvoir me dire que voilà, les gens portent à l'étranger des produits marocains et qu'ils se disent « Waouh, c'est pas un produit du souk, on va, voilà, on va faire un raccourci, mais c'est pas un produit du souk qui est mal fini, qui est pas joli, qui va sentir peut-être un petit peu la peau, des choses comme ça. » Donc ça, c'était l'objectif numéro un. L'objectif numéro deux, c'était de valoriser notre artisanat à l'étranger parce que voilà, c'est fait par des mains marocaines, des gens qui donne du mal en fait à faire des beaux produits, donc que ce soit au niveau de la broderie, au niveau des coopératives de femmes, des tissages, au niveau de nos artisans qui montent les produits. Donc voilà, que aussi l'artisanat marocain valorisé d'une certaine manière plaît aussi dans le monde entier. Je veux dire que c'est pas destiné que à une clientèle marocaine. Et surtout pouvoir montrer qu'on peut partir de chutes de matériaux et qu'on peut en faire des produits qui sont extrêmement beaux et qui sont aussi beaux que des produits issus de matériaux achetés. Donc ça aussi, c'était une vraie volonté de dire qu'on arrivait à englober tout ça et à faire un produit. Ça, la recherche, elle est constante parce que nous, on est toujours à la recherche de nouveaux matériaux. Alors, la contrainte, c'est de nouveaux matériaux et en plus de matériaux qui soient propres. Donc, on essaye aussi un maximum de, quand on récupère de la matière, que ce soit de la matière qui soit écotex, pour que voilà, le produit soit 100% éco-friendly, éco-responsable. Et ça, c'est la mission, je pense, la plus difficile. C'est des matières qu'on récupère au Maroc auprès d'usines avec lesquelles on collabore, qui sont devenues des amis au fil du temps, qui ont joué le jeu avec nous au début, parce que c'est vrai que voilà, on est allé, on leur demande de récupérer leurs chutes. Souvent, ça se vend les chutes. Après, nous, au début, ils jouent le jeu, donc ils nous donnent leurs chutes. Et ils sont hyper agréablement surpris de voir ce qu'on en fait. Ça, c'est toujours aussi une satisfaction de se dire, voilà, eux qui montent d'autres produits, du jean ou des choses comme ça, quand on leur montre le produit final de ce qu'on a fait avec leur chute qui était destinée à être jetée, il y a de la lumière dans leurs yeux. Ça, c'est cool.
Le tout premier épisode que j'ai enregistré pour Basilic, il était consacré à cette démarche d'upcycling avec Sabrina, qui est basée à Lyon et qui a créé la marque Koufou. Elle recyclait des tissus, mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, ça fait écho à ce que Sabrina disait. Elle disait, quand je vais chez les couturières, que je récupère leur chute de tissu et qu'après, je leur montre le produit réalisé, elles sont complètement émerveillées et elles n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir me fournir à nouveau des tissus, et ça entraîne une dynamique hyper positive.
Et c'est vrai qu'il y a une dynamique qui se crée, et après, quand on leur montre, quand on y retourne, on dit « Ouais, voilà, j'ai trié ça pour toi, j'ai une idée, machin », c'est rigolo, c'est vraiment sympa.
Est-ce qu'il existe aujourd'hui des associations qui valorisent l'artisanat marocain, des associations auprès desquelles on pourrait peut-être se rapprocher, nous, en tant que consommateurs et consommatrices basées en Europe, si on veut, je ne sais pas, acquérir un tapis, un tabouret, ce genre de choses?
Alors, je sais qu'il y a la Maison de l'Artisan qui chapeaute un petit peu ces sujets-là. Après, tout le monde n'est pas affilié à ce genre d'association. En général, par exemple, nous, on est affilié plutôt à l'association des professionnels du cuir. Mais en tant que consommateur final, je sais qu'il y a des pistes de réflexion en ce moment qui sont en train de développer pour un label Made in Morocco. Et notamment, moi, j'avais déjà eu un label, enfin, il y a l'association des marques marocaines qui avait fait ça, qui avait lancé ça, et nous, on est affilié à ce label. Mais là, c'est en train d'être fait un petit peu à plus grande échelle. Et donc, ça, c'est censé, justement, mettre des contraintes aux marques et aux artisans, un cahier des charges à remplir pour être labellisé Made in Morocco. Et ça, je pense que ça serait une belle démarche pour effectivement pouvoir reconnaître un produit fait dans des conditions décentes d'un autre. Après, voilà, parce que même aujourd'hui, nous au Maroc, on est envahi de produits turcs et chinois.
Ouais, vous échappez pas à ça non plus.
Non, 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 du tout. Du tout. Et justement, même leur artisanat, enfin l'artisanat turc notamment, est en train d'envahir le Maroc. Et il a pris dérisoire par rapport à l'artisanat marocain. Et donc, bah, c'est le bienvenu pour valoriser et mettre en avant notre patrimoine et pouvoir surtout l'exporter. Pour moi, c'est vraiment, c'est en fait, ça permet d'être un gage de qualité pour les consommateurs, que ce soit en B2B ou en B2C, qui va leur permettre de dire, bah, voilà, ça c'est traçable, je sais que ça a été fait dans telles conditions, je peux y aller sans problème.
C'est vrai qu'en tant que consommateur et consommatrice, on a besoin de labels aujourd'hui, on a besoin d'être éclairé.
C'est la seule chose dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont envie de savoir où ça a été fait, comment, dans quelles conditions. Et nous, l'avantage qu'on a d'être à la fois, enfin moi fabricante et marque, c'est que on maîtrise vraiment le process. C'est-à-dire qu'il n'y a pas y a pas de choses qui nous échappent.
Et puis au niveau du prix, je voulais qu'on en parle aussi pour que les auditeurs et les auditrices qui écoutent ce podcast ne pensent pas qu'on parle de petits chaussons à 150 euros la paire.
Alors, le prix, on essaye d'être entre 38 et 45 euros en prix de vente publique. Alors, les prix, nous, d'ailleurs, c'est très rare de voir des soldes sur notre site ou ce genre de choses parce que nos marges sont calculées vraiment juste. C'est-à-dire que on n'est pas dans une perspective d'être gourmand, on est dans une perspective d'utiliser déjà des matériaux qui coûtent cher à la base. Plus cher qu'en tout cas des matériaux standards, donc c'est des matériaux déjà qui nous coûtent plus cher initialement, et tout ce qui est tissage, tout ce qui est broderie, etc., ben, ça a un prix, puisque c'est fait manuellement, donc ça a un coût. Donc les marges sont calculées vraiment de manière très 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 raisonnable, pour arriver à un prix aussi qui soit décent auprès du consommateur. Alors certes, ça va être plus cher que certaines marques qui sont sur le marché. Mais honnêtement, pour les avoir pris en main, comparés, souvent en termes de finition, on est quand même sur un niveau de finition qui est plus élevé. C'est-à-dire qu'au même niveau de finition, en général, on est sur les mêmes prix, voire un petit peu moins cher. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment d'offrir un rapport qualité-prix qui soit intéressant. Bien sûr, bah, nous, derrière, pour pouvoir payer bah, les matériaux, les coopératives, etc., bah, on a besoin de marger. Je pense que c'est, voilà, c'est comme toute marque, pour pouvoir bah, payer tous nos frais. Et aussi, nous, dans notre réflexion de marque, par exemple, on est sur des petits stocks, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas en énorme quantité pour diminuer le prix de fabrication. Et derrière, faire des soldes parce qu'on fait des marges énormes, on est sur une production maîtrisée, quitte à en refaire quand on a des demandes, mais on n'est pas sur de la fabrication industrielle pour justement essayer de casser les coûts. On est quand même sur quelque chose qui reste humain, à taille humaine, on fabrique. Ce qu'on considère vendre, pouvoir vendre, et on ne fait pas de stock, c'est-à-dire qu'on a très rarement des paires qui nous restent sur les bras d'une saison sur l'autre, parce que justement, déjà, les matériaux, on les achète en quantité nécessaire, et on le fait au fil de l'eau.
Oui, donc vous êtes vraiment dans une démarche responsable de A à Z. Merci beaucoup.
Ben avec grand plaisir, vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec toi et d'écouter surtout tes podcasts qui sont sur des sujets divers et qui me permettent de m'ouvrir à d'autres initiatives écologiques.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, j'indiquerai dans la barre de description les liens utiles pour suivre Hob et le travail réalisé par Ind. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter ou Instagram @basilicpodcast et à laisser des commentaires et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast à de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs. Et c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.